toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la rédaction de Game Info. Aujourd'hui, c'est notre épisode numéro 367. Ici Mordren et je suis en compagnie du Tyran. Salut Tyran.
Bonsoir. Bienvenue sur Game Info ASMR.
Le Tyran ASMR qui part donc en fou rire en début d'émission, ça commence bien. Et je suis avec ATH. Salut ATH.
Salut. Mais bon, si ça commence en ASMR, moi je vais me casser.
Je réponds plus de rien si ça part sur l'ASMR, moi je vous le dis. Hein.
Je sais pas ce que vous avez contre l'ASMR, moi je trouve ça très bien, hein, mais bon, bref.
Voilà, bon. Bref, comme tu dis. Au menu du podcast cette semaine, on va parler encore un petit peu réalité virtuelle. On va parler de GTA Online et d'un mode fort intéressant. On va parler également d'un mode qui est à ses débuts, qui fait un lien entre Mountain Blade 2 et Crusader Kings 3. On fera une présentation en pagaille d'un certain nombre de jeux qui sont présentés en termes de gameplay cette semaine. On parlera du rachat de Mediatonic alias Fall Guys par Epic Games, du dernier clou dans le cercueil d'Artifact chez Valve, de l'outsourcing et du crunch, et un dernier truc qui est apparu en fin de semaine, c'est les jeux Electronic Arts qui sont sur Steam, qui sont a priori plus trop lançables. On en parlera avec le Tyran en fin d'émission.
On précise pour ceux qui sont en train de paniquer, c'est les vieux jeux, hein, rassurez-vous.
Ouais. Ok, eh bien, commençons tout de suite par un courrier des lecteurs, une réponse à, une fois n'est pas coutume, l'atteigne sur, une fois n'est pas coutume, la réalité virtuelle. À toi, Tyran.
Alors, c'est pas vraiment une réponse, c'est parce qu'il pose, il avait un message à faire passer à TH, n'est-ce pas? Donc, moi, je relais le message, hein, parce que je sais que tout le monde ne va pas forcément sur le site. Juste, il disait une simple chose par rapport à ce que disait ATH sur le fait que on a des jeux qui, en gros, sont pas franchement très inventifs. T'as des rail shooters, des trucs qu'on a déjà vus, sauf qu'ils sont en réalité virtuelle. Ce que disait Lataigne, juste, lui qui, pour le coup, est un utilisateur de la réalité virtuelle, c'est que, ben, pour lui, en fait, la réalité virtuelle, dans ces jeux-là, ça change tout. C'est des jeux auxquels jamais il ne toucherait, typiquement, tout ce qui est rail shooter, etc., s'ils étaient juste sur la manette. Sauf que quand tu as le casque sur la tête et que ben t'es dans le jeu, que par exemple tu joues un jeu de mecha et que c'est toi le robot, que tu brandis ton bouclier, etc., et que bah c'est toi qui fais toutes ces actions là avec le casque vissé sur la tête, bah l'immersion fait que les sensations ne sont pas du tout les mêmes. Et il a rajouté par rapport aux jeux d'horreur notamment, il y a beaucoup de gens qui se sont remis à flipper sur le dernier Resident Evil, alors que ça fait des années qu'ils flippent plus sur un Resident, parce que ben, en fait, quand t'as le casque vissé sur la tête, si tu veux, t'as des choses qui se passent, qui font que ça te met mal à l'aise, notamment le fait, tu sais, que t'as plus ton écran devant toi et que ton écran c'est comme une fenêtre, tu vois. Enfin, tu sais que t'es toujours dans la, comment dire, je vais pas dire la réalité, mais t'es pas immergé au point que tu te dis oulala, un zombie, oup, je. T'as quand même un effet waouh, si tu veux, par rapport à la réalité virtuelle qui a l'air d'être persistant en plus, qui fait que sur certains jeux, ben le plus qu'apporte la réalité virtuelle est suffisamment important pour qu'en tout cas lui, de son point de vue, ce soit intéressant. Voilà, c'était juste le message que je voulais véhiculer.
Alors moi, je suis d'accord avec lui, tu vois. J'ai pas contredit là-dessus, parce que j'ai même dit que l'immersion, c'était quand même le truc en plus de la réalité virtuelle. Mais pour schématiser au maximum ma pensée, je vais prendre un peu le concept de la Wii et du motion gaming qui avait été vendu à l'époque. Moi, je trouve que la Wii et son concept qu'il y a eu au final, même après ce qu'il y a eu par la suite avec le PS Move, en fait, c'était sympa pour des petites expériences et des petites sessions de jeu, mais sur le long terme, j'ai pas trouvé, tu vois, des jeux exceptionnels qui ont marqué vraiment un marqueur définitif. C'est-à-dire que les jeux les plus intéressants que j'ai pu jouer sur la Wii, parce que c'était quand même la console vendue avec la Wiimote, alors que PlayStation c'était un accessoire. En fait, si tu veux, le contrat pour moi, il a pas été respecté, parce que les meilleurs jeux qui étaient sur la Nintendo Wii, en fait, étaient des jeux que tu pouvais jouer de manière classique. Et voilà, en fait, moi, si tu veux, la VR, c'est intéressant, mais tant qu'il n'y aura pas vraiment un vrai catalogue de jeux qui soit fourni avec et qui propose vraiment une expérience totalement autre et qui soit uniquement possible en VR, pour l'instant, ça, pour moi, ça restera du gadget, quoi. Voilà.
Ok, eh bien, c'est bien du coup d'avoir cet aller-retour entre le sentiment de l'Athènes qui lui pour le coup bah connaît très très bien et visiblement on est très très friand, et puis du coup de d'autres personnes qui pour le coup n'ont pas encore fait le pas, d'expliquer un petit peu pourquoi. Déjà parce que bon, il y a une barrière à l'entrée, hein, évidemment, mais il y a aussi une barrière en termes de software, hein, comme le dit ATH. Et moi, ça fait, je te rejoins un petit peu, ATH, de ce point de vue-là. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Laten sur le côté immersion du truc. Mais pour moi, j'aimerais bien avoir un petit peu de perspective en fait sur ce genre de choses. Et pour moi encore, c'est pas une technologie qui m'est accessible d'un point de vue budget. Mais aussi qui me semble suffisamment transcendantale pour me dire je vais utiliser cet argent pour faire ça plutôt qu'autre chose.
Parce que même, alors juste, il soulignait quelque chose par rapport aux perspectives, Andren, et je pense que c'est un argument, en tout cas pour ce qui est de la VR chez Sony, hein, je précise, il disait pas ça d'une manière générale, c'est qu'on voit
Bien
quand
sûr.
même que Sony assure le support long terme sur la VR. C'est-à-dire que là, tu peux toujours continuer à utiliser ton casque VR de la précédente génération sur la nouvelle machine. Ils ont fourni le dongle gratuit pour que tu puisses jouer. Là, pas plus tard que cette semaine, ils ont annoncé pas mal de nouveaux jeux. Je vous avoue que il y a 2 mois de ça, moi, je commençais à me dire, mais Sony, ils en ont quelque chose à foutre de la VR ou ça se passe comment? Donc là, visiblement, ils ont l'air vraiment de s'engager à long terme sur le sujet. Donc lui, pour le coup, sur le long terme, en tout cas, je dis pas que vous avez tort, mais juste, j'explique son point de vue. Lui, de son point de vue, en tout cas, sur le long terme, c'est quelque chose d'intéressant. Alors après, moi, je suis un peu comme vous. Enfin, je suis un peu entre deux eaux, c'est-à-dire que pour moi, je trouve que la partie immersion de la VR, je suis assez d'accord avec Latagne pour avoir essayé un casque VR, tu vois. Je trouve vraiment que ça apporte un plus qui est important. Maintenant, est-ce que je veux payer 200 ou 300 balles pour ça? Parce que c'est ça le prix, hein. Et les prix les moins chers en plus. Non. Parce que la console, déjà, elle va me coûter ce prix-là, tu vois. Encore si je la trouve à un bon prix. Mais même si je trouve la console à ce prix-là, enfin, c'est quand même une sacrée somme, moi je trouve. Donc, et encore une fois, bon, moi pour le moment, j'attends que tout ça se stabilise. Voilà,
Ouais, mais
voilà.
moi je
Bien sûr.
suis juste pour finir là-dessus. En fait, je suis comme ça à peu près avec toutes les nouvelles technologies, c'est-à-dire que pour sortir complètement du cadre de la VR, c'est comme aujourd'hui on nous vend le ray tracing. Alors le ray tracing, si tu veux, sur le papier, c'est cool, ça te permet des meilleurs effets de lumière avec des effets réfléchissants en fait, comme si c'était un miroir. Mais en fait, si tu veux, je trouve que en termes de ludicité, c'est pas du tout exploité dans les jeux. Par exemple, j'aimerais bien qu'il y a des jeux qui, alors, l'utilisent pas tout le temps, mais quand même que cette mimique soit incorporée dans un gameplay d'un jeu pour, par exemple, te servir à résoudre certaines énigmes et pas que ça soit quelque chose, juste un artifice visuel. Et pour revenir un peu sur la VR, moi, la VR, en fait, si tu veux, dans tout le catalogue que j'ai pu voir, il y a un seul jeu sur la PlayStation VR qui m'intéresse et que j'aimerais bien tester, c'est Astro Boy. Parce que c'est un jeu d'action plateforme à la troisième personne en plus, qui se joue à la VR, et apparemment ça a l'air vraiment chouette de ce point de vue-là. Et si tu veux, j'aimerais bien l'essayer, mais est-ce que j'irais mettre la thune nécessaire dedans juste pour avoir une expérience qui me tente bien? Je trouve que ça fait un ticket quand même assez cher à l'entrée. Donc moi je doute pas que la
Si
VR
j'avais envie de
c'est...
troller ATH, je dirais t'as déjà fait ça avec la Wii U, hein.
Ouais, mais bon, la Wii U je l'ai fait
Non.
aussi, mais la Wii U je l'ai quand même plus rentabilisé, il y avait quand même
Mais
des jeux
en fait,
Nintendo et...
y a une différence entre refuser le ticket à l'entrée et dépenser le même argent sur autre chose. Si tu t'as décidé, par exemple, à l'époque que la Wii U valait ton argent, c'est que quelque part, t'étais plus convaincu par la promesse de cette console à l'époque que tu ne l'es à l'heure actuelle de l'expérience VR. Alors, on pourra argumenter si c'est une erreur ou pas, peu importe. Mais
Pour ce qui me concerne, c'était une
le...
erreur, mais
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un facteur intéressant de dire, en fait, cet argent, je l'ai potentiellement, et je décide de pas l'utiliser pour ça. Donc c'est que quelque part, tu n'es pas encore tout à fait prêt à passer le pas.
oui, tout à fait.
Exactement, c'est ça, c'est ça.
Eh bien, écoutez, passons à la suite, si vous le voulez bien, les amis. Kiltia, qui est pas tout à fait d'accord avec ce qu'on a dit, mais qui est au boulot, du coup, peut pas vraiment trop argumenter là-dessus, mais cite quelques jeux qui l'intéressent beaucoup en VR, notamment le Wipeout, RE7, Moss, et d'autres, mais pas le temps de alors, de trop développer.
Wipeout en VR, il faut avoir un sac à vomir à côté, je suppose, quoi.
Alors, en parlant de choses, de jeux qui te laissent un petit peu le temps de respirer entre les temps de chargement, on va parler de GTA Online. Alors GTA Online, c'est intéressant parce que il y a un petit modeur qui s'est penché sur la question et qui s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer GTA Online. Eh bien, GTA Online, avec 70% de moins de temps de chargement, est-ce que ça serait pas mieux déjà, tiens?
Bah ouais, surtout qu'ils sont vachement longs. Alors après, ça dépend de votre configuration, hein. Évidemment, si vous avez une configuration à 2000 balles avec un SSD NVMe, dernière génération machin, oui, peut-être qu'effectivement, les changements sont pas aussi sensibles. Mais pour pas mal de gens qui ont pas une bête de course, bah il a réussi à grandement améliorer les temps de chargement, et je trouve ça... limite scandaleux, en fait, parce que le gars explique très bien que ça, c'est lui, il y arrive, c'est une journée de boulot, tu vois. Et tu te dis, avec toute la thune que Rockstar se fait sur ce jeu, ils auraient quand même pu se sortir un peu les doigts du cul pour le faire, quoi. Parce que bon, c'est quand même une plaisanterie, là.
Ouais, parce que, surtout que GTA Online, là où le solo, t'as un temps de chargement qui est assez long, mais une fois que t'as lancé ton solo, le temps de chargement, t'en as plus dans le jeu quasiment. Là où le online, en fait, chaque mission que tu vas lancer en multijoueur et tout ça, tu vas avoir un temps de chargement qui va charger la mission, parce qu'à chaque fois, ça va afficher une map différente ou bien des objectifs différents. Et c'est sûr que enchaîner les parties dans GTA Online avec des temps de chargement aussi longs, c'est assez relou. Mais moi, ce que je lui propose à ce mec-là, c'est tout simplement d'envoyer son CV chez Rockstar ou chez quelqu'un d'autre qui voudrait travailler sur du online. Si le mec, il a des compétences et qu'il a le talent pour, tu vois, il pourrait peut-être se faire un CV dans le milieu, quoi.
Bah, le truc, c'est que d'après lui, il a rien fait d'extraordinaire, en fait. C'est ça qui, moi, me paraît ouf, quoi. Ça veut dire qu'en gros, je doute pas que chez Rockstar, ils aient les gens pour faire ce travail. C'est juste qu'ils ne le font pas, en fait.
Oui, après peut-être que le mec c'est un génie et que voilà, en fait. C'est-à-dire que en fait si lui il a pu voir un truc qui peut être corrigé facilement et simplement et que Rockstar ne l'a pas vu ou bien que Rockstar en est conscient et qu'ils le font pas, c'est complètement con, tu vois. Surtout si ça prend pas beaucoup de travail.
Moi, je suis même pas sûr qu'ils en soient conscients, TH. Moi je pense qu'ils en ont rien à foutre. Enfin, pour moi ça relève de ça, quoi. Enfin, t'as un jeu qui marche. Tu t'occupes de le charger en contenu et les optimisations. Franchement, combien de jeux, par exemple, tu sais, ne serait-ce que sur l'espace que prennent les jeux sur le disque dur, combien il y a de studios qui, après coup, se font chier, tu sais, pour essayer d'optimiser ça et qui ne le font jamais, tu vois. Call of Duty, je pense à toi, mais il n'y a pas que lui. Enfin, quand même, quoi. Enfin, faites un effort, les studios. Bref, voilà.
Oui, faites un effort les studios, c'est marrant. Alors là pour le coup je vais digresser, mais quand j'ai téléchargé la première fois Valheim et que j'ai vu que le jeu pesait 1 giga, j'étais là en mode pardon. J'étais là, tu sais, je suis plus habitué en fait à avoir des expériences de jeux 3D qui prennent pas de place. Parce que de nos jours en fait, c'est tellement l'optimisation ne serait-ce que de l'espace disque, en fait, c'est tellement fait par-dessus la jambe, voire c'est tellement pas fait du tout. Que quand tu vois un truc qui prend pas de place, tu te dis mais attends, mais c'est normal.
Ouais.
Donc là ouais, pour le coup GTA Online, bah intéressant pour les gens qui jouent du coup évidemment sur PC à GTA Online d'avoir des temps de chargement réduits. On le sait, hein, c'est un peu le nerf de la guerre de la nouvelle génération de consoles. Mais visiblement quand tu t'es occupé à récupérer, tu sais, les cartons de monnaie que ton jeu imprime, t'es pas spécialement occupé à l'optimiser, ce qui est un petit peu dommage.
Non mais c'est assez fou parce que 1 giga, c'est un gros jeu PlayStation première du nom. Parce que on va dire que la plupart des jeux sur PlayStation c'était 700 MO. 1 giga, c'était un jeu assez conséquent en contenu. Et quand tu vois que Valheim, quand tu l'as téléchargé, il faisait que ce poids-là, alors que quand tu compares à d'autres jeux qui font, je sais pas moi, on va dire sur la PlayStation 4, en moyenne, c'était entre 40 et 50 gigas quand même. Pour faire une différence, c'est quand même...
Akenaïs qui dit LOL et ses 15 gigaoctets, je pense à toi. Effectivement, surtout quand tu vois la gueule de LOL,
Ouais, mais tu vois, paradoxalement, LOL et ses 15 gigas, pour moi aujourd'hui, ça me paraît peu, en fait. Quand je vois les monstres qui sont à côté, qui font 30 gigas, 50 gigas, 100 gigas, Tu vois, en fait, quand tu me dis 15 gigas, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, oui, bah, c'est... En comparaison,
je suis d'accord
en fait.
Que en comparaison c'est pas beaucoup, mais quand tu vois la gueule du jeu, tu dis que tu fous de ma gueule quoi, parce que le jeu, enfin voilà.
Non mais là je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que LOL, voilà, enfin c'est pas déjà graphiquement c'est pas super fou, mais en plus de ça, je suis désolé mais le contenu du jeu, mis à part les personnages et tout, tu vois c'est pas comme si t'avais 15 000 maps, enfin on n'est pas du tout dans un MMORPG avec du contenu à foison. Tu charges la map, les champions et puis après baston quoi.
Ouais.
En parlant de jeu qui a un contenu pléthorique, je voudrais parler un petit peu de Crusader Kings 3 qui va bientôt avoir un mode, en tout cas il y a un mode qui est dans les cartons à l'heure actuelle, qui permettrait en fait de lier votre partie de Crusader Kings 3 à chaque fois que vous faites des bastons, vous lanceriez dans un combat dans Mount & Blade 2. Donc c'est quelque chose d'assez inédit. Le mode est vraiment dans ses tout premiers temps et on en voit une toute petite vidéo là tout de suite. Mais en gros, ça permettrait en fait de véritablement se battre dans Crusader Kings 3. C'est assez fou comme promesse.
Moi jamais je touche à ça. Hein. Non parce que là.
Non, il faut pas.
Déjà Crusader Kings 3, j'y ai perdu des heures de ma vie. Merci le Game Pass. Et en oui. Plus, tu rajoutes des batailles que tu peux vivre dans Mountain Blade. Enfin, c'est dingo. C'est, c'est complètement dingo. Et tu vas y passer des heures et des heures et des heures. Et déjà, que c'est un jeu, si tu veux, où tu y passes un temps fou. Alors, si tu y rajoutes en plus le temps des batailles en direct, quoi. Parce que là, au moins, dans Crusader Kings 3, les batailles sont vite résolues. Mais là, on te propose carrément de t'immerger dans l'univers du jeu encore plus et de vivre les batailles comme ça. Non, 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 je mets jamais les doigts là-dedans, même si, franchement, c'est fabuleux comme idée. Mais jamais je mets les doigts là-dedans. Ouais.
C'est une idée assez folle qui vient régulièrement, tu sais, quand tu joues à des jeux un peu macro comme Crusader Kings 3. Je pense notamment à ce que fait la série des Total War, où là, pour le coup, vraiment, tu fais... T'as le côté macro dans tes régions, dans tes villes, etc. Mais aussi, quand il y a bataille, tu fais le côté stratégie en temps réel et tu diriges tes troupes. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, dans Crusader Kings, ça n'était qu'un rêve jusqu'à maintenant. Et alors, bon, le mode n'est pas du tout disponible encore, hein, mais ça permet de t'imaginer qu'une partie de Crusader Kings 3 qui peut potentiellement durer des dizaines voire des centaines d'heures pourrait durer des milliers du coup après ça.
Ouais bah en tout cas bon bravo pour l'idée. Alors l'implémentation pour le moment il est en phase de test là le modeur. Donc en gros ça envoie les paramètres de la bataille à Mountain Blade et derrière Mountain Blade une fois qu'il a terminé il renvoie les infos à Crusader Kings. Bah déjà pour avoir eu cette idée là et bricoler un outil qui fait la liaison entre les deux, ben chapeau les gars.
Ouais, c'est ouf. Alors, je suppose qu'il faut quand même avoir une machine qui tourne relativement bien, parce que, bon, déjà, Mountain Blade 2 est un early access, mais aussi, du coup, tu fais tourner les deux jeux en même temps. Mountain Blade 2, c'est, a priori, beaucoup d'unités que tu vas devoir faire tourner au même moment. Ça risque d'être un poil gourmand, en tout cas, dans les premiers temps, quoi.
Après, je sais pas si tu mets le processus en arrière-plan. Est-ce que, du coup, ça... pompe peut-être un peu moins de ressources ou... Là, ouais. J'avoue, je connais pas les détails techniques.
Peut-être. Mais en tout cas, je me dis que ça serait peut-être plus simple pour à gérer d'avoir une typologie de bataille à la Total War. Mais là, pour le coup, Mountain Blade, du coup, ce qui change tout là-dedans, c'est que Mountain Blade, tu es vraiment sur le terrain avec... et tu donnes des ordres, en fait, à tes, à tes sbires, quoi. Donc là, pour
et
le coup,
ça colle
t'es vraiment
plus
à fond dedans, quoi.
À l'esprit de Crusader Kings 3, je trouve, qu'un Total War. Parce que Crusader Kings 3, le délire du jeu, vraiment, c'est tu joues un personnage qui est roi et qui gère sa dynastie, puis à un moment, il meurt et tu joues son héritier après. Vraiment, tu incarnes un personnage, et le fait d'incarner un personnage sur le genre de bataille aussi, bah, je trouve que ça reste dans la lignée de l'expérience RPG, on va dire, jeu de rôle, que cherche à produire ce jeu-là, quoi.
Bon, l'histoire ne dit pas comment ils vont gérer les divers sprites des diverses factions de Crusader Kings 3, mais encore une fois, voilà, on en est que dans les premiers temps de ce mode. Passons du coup à la suite avec une section présentation de jeux, et je te propose de commencer par un jeu qui s'appelle Stonefly, tiens.
Alors Stonefly, c'est un jeu d'aventure où vous allez jouer un mecha insecte, tout simplement, que vous allez pouvoir customiser, faire évoluer en lui apprenant des compétences, enfin en installant du coup des extensions au mecha qui vont faire qu'il va avoir des nouveaux pouvoirs, etc. Et forcément, vu que vous êtes dans un peu dans l'univers des mini-pousses, quoi, si tu veux, c'est-à-dire que tu joues des humains qui vivent dans des arbres géants. Enfin, je sais pas si c'est les humains qui sont mini ou si c'est les arbres et les insectes qui sont géants, mais dans tous les cas, tu es à taille d'insecte, on va dire, et du coup, ton moyen de survivre et de te déplacer, c'est d'utiliser un mecha qui va pouvoir combattre d'autres insectes, tout simplement. Et alors moi, je suis juste baba devant l'univers que je trouve super cool. Enfin, moi, ça me parle énormément. En plus, c'est très coloré. C'est un jeu qui est un peu en vue de dessus. Alors, pas tout à fait isométrique, mais un peu vue de trois quarts. Et vraiment... ça a l'air, les combats ont l'air vachement chouettes, l'univers me parle beaucoup, donc écoute, à surveiller, il n'y a pas de date pour le moment, mais ça me tente énormément.
Ok, bah ça a l'air sympathique, effectivement, moi j'aime bien le côté très coloré, contrasté de l'image, je suis curieux de voir ce que ça donne, manette en main.
On précise que les combats sont en temps réel, voilà.
Ouais. Ouais, donc ça a l'air d'être une espèce de beat'em all, en fait.
Oui, finalement. Un jeu d'action en aventure, avec où tu peux customiser ton mecha, quoi.
Ouais. Donc rigolo, à voir ce que ça donne en termes d'univers et comment il l'utilise, évidemment, en termes d'histoire, puisque ça a l'air de parler un petit poil, quand même. Je sais pas s'il y a d'autres phases en dehors des combats, ou s'il y aura aussi un petit peu de platforming ou des choses comme ça, mais voilà, ça s'appelle Stonefly
et c'est disponible sur quasiment tous les supports.
Enfin, c'est pas disponible encore, mais ça le sera.
Oui, voilà. Ça sera disponible sur tous les supports, pardon.
Très cool. Est-ce qu'on enchaîne ou ATH, t'as quelque chose à dire sur le jeu?
Non, je suis d'accord avec ce que Tyran il a dit. Après, voilà, moi je suis complètement hermétique à tout ce qui est univers qui touche aux insectes, mais Ah, je trouve que la DA, franchement, est très chouette. Mais tu vois, là,
c'est
le fait
très
de mélanger...
mignon dessin animé, hein, pour ceux qui se poseraient la question. On n'est pas du tout dans quelque chose qui cherche à être réaliste ou quoi que ce soit. Hein.
Bah, c'est justement, je trouve que, justement, de pas avoir fait quelque chose de réaliste, ça sied très bien à ce genre de jeu. Parce que vouloir faire à chaque fois du photoréalisme et tout, c'est chouette pour certains types de jeux. Mais je pense qu'il faut pas le faire non plus avec tous les jeux, quoi. Il y a des jeux qui se prêtent plus à du photoréalisme, d'autres qui se prêtent plus à du cel shading, etc., etc. Tu vois, ça serait complètement con aujourd'hui de faire, par exemple, un jeu Dragon Ball Z photoréaliste, alors que tu pourrais faire un jeu Dragon Ball en cel shading qui reprendrait l'esprit de l'anime ou du manga, quoi.
Alors, Akedanis, qui visiblement a la phobie des insectes dans le chat, qui dit « des papillons géants, j'espère que c'est Peggy 18
». C'est ça, allez, passons à la suite avec un Metroidvania. Alors, c'est marrant, hein, y a pas du tout assez de Metroidvania.
Y a jamais assez de Metroidvania, c'est trop bien les Metroidvania.
on va continuer avec donc un jeu qui s'appelle Aeterna Noctis, donc un Metroidvania, vraiment un jeu... Enfin, un genre de jeu qui a le vent en poupe, hein, ces dernières années, on en voit tout le temps, mais c'est quand même assez difficile d'en faire des très bons.
Bah, c'est difficile d'en faire des très bons, et du côté de certains créateurs, c'est même difficile d'en faire des beaux. Hein. Je ne vise pas du tout certains jeux faits par des créateurs connus. Je ne citerai pas. Voilà, on va
éviter sur
l'ambulance. Il y a des gens qui trouvent le jeu beau, donc je vais pas en rajouter une couche. Mais
tu parles de Bloodstained, toi.
Ah, tout de suite, ATH, voilà, oui, je trouve Bloodstained absolument immonde visuellement, mais voilà, bah, c'est que mon avis.
Alors, qu'est-ce que c'est Aeterna Noctis, du coup?
Bah, Aeterna Noctis, c'est un Metroidvania, tout ce qu'il y a plus classique, visiblement. Alors, le seul truc qui m'a un peu dérangé dans la vidéo qu'on a vue, c'est qu'à un moment donné, ils se sont crus dans, dans Super Meat Boy, parce que t'as des pics partout et tout, et moi, vous savez que le passage que j'aimais le moins dans Hollow Knight, c'était le passage justement où d'un seul coup le jeu il décide ah tiens on va mettre des phases de plateforming bien relou juste histoire de voilà de bien te faire chier. Moi j'ai, c'est vraiment le seul reproche que j'avais fait au jeu, sinon je le trouvais parfait. Donc là j'avoue que ça m'a un peu refroidi, mais par contre alors quand j'ai vu le visuel du jeu, oh là là, qu'est-ce que ça serait bien qu'un Castlevania ait cette gueule aujourd'hui quoi, parce ça que franchement ça dépote, et surtout quand tu vois ça tu dis attends mais si un studio comme ça ils arrivent à faire un jeu, alors tu sais c'est un peu comme Hollow Knight en termes de rendu, vraiment je trouve que le rendu est assez proche d'Hollow Knight, tu vois.
Oui,
je parle pas de la D1, hein, je te parle vraiment du style, des lignes des personnages, etc. Mais par contre ça reste des personnages, enfin des humains quoi, c'est pas des insectes pour le coup,
c'est
ça. Franchement j'accroche à fond à ce qui est proposé en termes de visuel, vous savez, je suis une graphic whore. Alors après, évidemment, hein, il faudra voir ce que le jeu donne. Hein. Là, on s'est fait bait entre guillemets par des jolis graphismes, mais qu'est-ce que t'as à proposer de neuf par rapport aux 3 milliards de jeux qui sont sur le marché ? Alors, les auteurs pourront répondre, bah nous, le jeu il est joli, ce qui est vrai, parce que vu le nombre de Metroidvania qui sont, alors. Moi, j'ai rien contre le pixel art, mais il y a plein de jeux que je trouve jolis, mais il y a plein de gens qui vous diront que c'est immonde, tu vois. Vu le nombre de Metroidvania qui sont pas à ce niveau-là de finition en termes visuels, ça m'intéresse. Après, l'univers, ça a l'air très classique. En gros, t'avais deux entités qui se battaient, et il y en a une à la fin, elle s'est fait niquer, et du coup, elle doit regagner ses pouvoirs. Et là, toi, tu fais, oui, bon, d'accord, oui, bon, j'ai déjà vu ce pitch quelque part, merci beaucoup. Mais sinon, ben, juste, j'attends de voir ce que ça va donner, ce qu'ils ont à proposer, est-ce qu'ils ont quelque chose d'un peu original, ou est-ce que c'est juste un joli jeu? Mais après, un Metroidvania qui est très joli et qui répète bien ses gammes, ça peut être sympa aussi, hein. Voilà.
Bien sûr. Alors moi, je suis content, en fait, parce que ce jeu, comme tu l'as dit, déjà, visuellement, c'est assez incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. C'est, tu vois, quand je parle de jeu en 2D et quand on râle sur le pixel art, là, je trouve que, pour une fois, ça, c'est de la 2D qui est très jolie et agréable, en fait, visuellement aujourd'hui. Et on n'est pas obligé de faire du pixel art pour parler à une certaine caste de gens qui jurent beaucoup par le rétro. Et je pense qu'on peut proposer aussi, quand même, tu vois, des trucs vraiment techniquement assez incroyables en 2D, surtout avec la puissance des machines aujourd'hui. Déjà qu'à l'époque de la Super NES, il y avait des mecs qui arrivaient à maîtriser la 2D comme pas possible, mais aujourd'hui, on est quand même sur des consoles qui sont bien plus puissantes, et techniquement, la 2D, ça prend moins de ressources, donc tu pourrais te lâcher et faire des trucs vachement exceptionnels. Là, je pense que, quand même, ils ont réussi à faire quelque chose déjà visuellement d'assez joli. Après, faudra voir manette en main ce que ça donne, si... est-ce que c'est classique ou est-ce qu'ils tentent d'apporter quelque chose?
Bah en tout cas, ça a l'air beaucoup plus dynamique qu'un Castlevania Symphony of the Night.
Voilà,
en
fait,
de pêche.
Tu m'as enlevé le truc que je voulais dire parce que pour moi, il corrige un des plus gros défauts en fait de Symphony of the Night. C'est-à-dire que Symphony of the Night, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais c'est un jeu où Alucard est quand même assez lent en fait dans le jeu. Et pourquoi je fais référence à Symphony of the Night, c'est-à-dire que dès que j'ai vu le perso la première fois, j'ai pensé à Alucard direct, quoi. C'est-à-dire,
Il tape les mêmes poses qu'Alucard. On va pas se mentir.
Il tape les mêmes poses, il a la même coupe de cheveux, enfin.
La même cape.
C'est ça. Visuellement, c'est Alucard, nouvelle génération, quoi. Après, tu vois, le jeu, il a l'air quand même d'être vachement plus dynamique. En plus, ça, t'as des dash et tout pour te déplacer plus vite, plus loin. Et donc ça, je pense que c'est une mécanique qui a l'air aussi d'être intéressante. Et puis tu parlais aussi de l'univers. Alors moi, l'univers, c'est vrai que sur le papier, je le trouve assez classique. Mais je pense qu'ils prennent un peu de risque, parce que dans le teaser qui est montré, on voit quand même que c'est un jeu qui a l'air de se passer à l'époque des châteaux forts et tout ça. Mais il y a quand même il semble y avoir quand même de la technologie derrière. Donc tu peux te dire, est-ce que on part sur un pitch de base assez principe, assez classique, et puis après on essaie d'évoluer la chose, ou bien est-ce qu'il y aura du voyage dans le temps, enfin quelque chose comme ça. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Mais aussi quand on parlait de Hollow Knight, moi il y a certains plans où il affronte une fleur, tu remplaces juste le personnage principal par un insect, et tu peux clairement te dire oui, ça serait la suite spirituelle d'Hollow Knight fait par d'autres créateurs. Après il y a des plans qui rappellent aussi du Castlevania et tout, mais c'est vrai que je trouve que la comparaison, en tout cas visuellement, sur certains plans avec Hollow Knight n'est pas déconnante, quoi.
Ouais.
Moi, je vais pas rajouter de trucs à ce que vous venez de dire. Je vais juste rebondir sur ce que t'as dit, Tyran, au niveau de l'aspect plateforme. Moi, il y a un truc qui m'inquiète sur ce genre de jeu, c'est qu'en général, tu sais, il y a pas forcément toujours des lieux de plateforme, de checkpoint partout. Et si, parce que là, l'air de rien, quand même, ça a l'air de, bon, ça a pas l'air non plus ultra velu, mais il y a des phases de plateforme.
Alors après, le truc c'est qu'ils mettent, tu sais, des séquences de 3 secondes où tu vois plein de kills partout, et si ça se trouve, c'est t'as un truc comme ça dans 40 minutes de jeu, tu vois, donc on sait pas en fait.
Donc du coup, je m'interroge simplement sur ce qu'ils montrent, et effectivement, tu as l'air d'avoir des phases de plateforme qui peuvent être un petit peu velues. Si ça arrive après un long run de baston, et que tu crèves et que tu reviens à ton précédent point de checkpoint qui est assez loin, ça risque d'être assez chiant. Donc je m'interroge juste là-dessus.
Ah, c'est clairement ça qui m'avait fait rager dans le White Palace, dans Hollow Knight, bon, qui est un lieu optionnel, hein, soit dit en passant. Mais...
C'est ça.
Voilà.
On va juste préciser du coup que c'est censé sortir en 2021. Ça sortira sur PC via Steam, sur PlayStation 5, sur Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch. Voilà, et ça s'appelait donc Aeterna Noctis, nouveau jeu dont on va vous parler tout de suite. C'est un jeu qui s'appelle The Eternal Cylinder. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu?
Alors, juste pour information, c'est un jeu qui est fait par les créateurs de Rock of Ages. Déjà, si et que vous avez joué
ça
au
place
jeu,
déjà le truc.
Vous savez que ça va être quelque chose d'un peu bizarre. Voilà.
Oui. Bah, avec la gueule du perso principal.
Alors, en gros, vous jouez une espèce de créature qui est dans un univers où t'as un espèce de cylindre géant qui, par intermittence, se met à rouler, en fait, et à broyer tout ce qui croise son chemin. Et les créatures sont obligées à chaque fois de fuir un peu plus loin pour éviter de se faire écraser, tout simplement.
D'accord.
La créature que l'on va jouer, elle a ceci de très particulier, déjà qu'elle a une tête vraiment chelou.
Oui, si je crois qu'on peut le dire. Ouais.
C'est un espèce de croisement entre un poussin et un éléphant, je crois. Enfin, il a la trompe d'un éléphant et la physiologie, dire, d'un espèce de poulet. Enfin, je sais pas quoi. C'est très chelou.
Ça ressemble à rien.
Voilà, ça ressemble à rien, mais écoute, au moins c'est inédit, on va dire, voilà.
C'est original. Moi, ça me fait beaucoup penser à Spore dans l'idée, le design du personnage principal.
Exactement, et ça ressemble d'autant plus à Spore que, comme dans Spore, le personnage que tu vas jouer va pouvoir évoluer en absorbant les caractéristiques d'autres bestioles. C'est-à-dire que, par exemple, imagine t'as un crapaud qui passe dans le coin, t'absorbes les caractéristiques du crapaud, tu te mets à pouvoir faire des bonds. Tu vois, parce que tes pattes vont être modifiées pour pouvoir faire des bonds, et du coup ça te permet de franchir un obstacle que tu pouvais pas franchir avant. C'est ça l'idée.
D'accord.
La bestiole que tu vas jouer, son rôle dans cet univers déjà très chelou avec un cylindre qui te poursuit tout le temps, ça va être d'activer des espèces de piliers qui vont permettre d'arrêter temporairement l'avancée du cylindre, tout simplement. Sachant que moi, il y a une question que je me pose une fois qu'on a dit tout ça. Alors, donc tu vas jouer une bestiole qui va pouvoir évoluer en absorbant des caractéristiques, etc. On se doute qu'il y aura, tu sais, des phases de puzzle où il va falloir te rendre dans un endroit en absorbant certaines caractéristiques, ce qui va te permettre de progresser dans le jeu, etc. Mais du coup, je me pose des questions sur dans quelle mesure le jeu t'offre des solutions différentes pour pouvoir arriver à tes fins. Sur le papier, je trouve le concept très séduisant. J'ai juste un peu peur, tu sais, que ce soit un truc un peu fermé, où en fait t'es une solution, il faut juste trouver la bonne bestiole pour avancer. Alors sachant que, autre caractéristique du jeu que je trouve très intéressante, tu ne vas pas jouer une bestiole, mais un groupe de bestioles en fait.
D'accord.
La première bestiole que tu vas jouer va évoluer, puis ensuite elle va croiser d'autres congénères qui vont la suivre, et en fait tu vas pouvoir alterner entre les différentes créatures que tu auras fait évoluer chacune d'un côté différemment. Donc ça va te permettre de créer des combinaisons pour pouvoir franchir certains obstacles, etc. Donc voilà.
D'accord.
Je surveillerai. Je trouve le concept super intéressant. L'univers a l'air complètement starbé. Enfin, tu vois toutes les créatures qu'il y a dans le jeu, c'est chelou, voilà. Et ouais. Ça me parle. Voilà, voilà.
Ok. C'est chelou, donc ça te parle. Donc c'est pas surprenant du coup, hein, que ta note en préambule, que ça soit les développeurs de Rock of Ages, ça me surprend pas du tout. ATH, est-ce que t'as une réaction à ce jeu fort ouais. Étonnant, ma foi.
J'espère que le jeu se permettra quand même d'avoir un côté un peu fabricologique assez intéressant à suivre. Parce que, en tout cas, sur le papier, c'est ce que ça a l'air d'être. Et si ça peut être intéressant de raconter quelque chose de bien par rapport à ça, je suis quand même assez intéressé sur le papier. Après, comme a dit Tyran, j'ai quand même assez peur que il n'y ait qu'une solution et que t'as l'impression en fait que t'as le droit à un monde ouvert où tu peux absorber les caractéristiques de toutes les créatures, alors qu'en fait non, il y aura que certaines choses ou certaines conditions qu'il faudra faire au préalable pour pouvoir continuer à avancer dans l'aventure. Donc moi, si tu veux, ce côté-là, ça me fait me questionner quoi. C'est-à-dire, j'attends d'en savoir plus par rapport à ça. Mais sinon, ouais, le jeu est assez barré, un concept assez intéressant. Et j'espère qu'il permettra aussi, tu vois, d'aller un peu plus loin qu'un simple jeu vidéo ici, voilà, d'avoir une réflexion qui est derrière, quoi.
Alors, une précision, il y a une bêta qui est actuellement disponible. Alors, il faut s'inscrire sur le site des développeurs pour qu'ils vous fournissent une clé éventuellement et que vous puissiez tester le jeu. Moi, je me suis inscrit pour le moment, j'ai pas encore reçu de clé, j'attends de voir. Si jamais j'ai une clé, j'essaierai de vous faire un retour là-dessus, et je vous mettrai bien évidemment le lien pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse ou pas. Voilà, voilà.
Ça marche. Bon, bah du coup, ça s'appelle The Eternal Cylinder. Ok, c'est sur PC uniquement, c'est ça ?
Pour le moment, oui, mais on n'a pas de date sur quand ça va sortir, quelque part en 2021, mais on sait pas quand.
D'accord, ça marche. Bon, bah écoutez. À surveiller donc, et on attend ton retour là-dessus. Tyran, ok, passons à la suite avec un jeu dont on a déjà parlé, me semble-t-il, qui s'appelle It Takes Two.
Alors, It Takes Two, c'est le prochain jeu de Joseph Fares. C'est le monsieur qui est à l'origine de l'excellentissime Brothers et qui est à l'origine aussi, malheureusement, enfin, moi, j'exprime mon opinion. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont adoré ce jeu. Moi, je l'ai trouvé. Et Ben aurait pu témoigner s'il était là aujourd'hui. Il a failli être là aujourd'hui, je précise. C'est en partie pour ça que j'ai mis cette news, d'ailleurs, parce que je voulais en discuter avec lui. Le problème de Way Out, si vous voulez, c'était un jeu coop pas vraiment intéressant. Enfin, je trouvais que la partie coop était sous-exploitée, et comparée à un jeu, par exemple, qu'on avait fait ensemble, Mandrake Bipède, où là, pour le coup, que j'ai trouvé surjouissif. Enfin, moi, je sais pas pour toi, mais Bipède, on a kiffé, quoi. Enfin,
on avait eu l'occasion d'en parler d'ailleurs en test. Hein.
Oui, bah, c'était un jeu vraiment que tout de suite. Il mettait en avant son aspect coop, et je trouvais que Way Out, c'est un jeu qui se perdait un peu dans sa narration et qui oubliait parfois que, bah, comme on jouait à deux, il fallait faire des choses à deux. Et quand on jouait à deux, il fallait peut-être mettre autre chose que des phases de TPS un peu chiantes à deux, quoi. Enfin, bon, voilà.
Non, mais surtout que le plus gros point fort, en fait, de Way Out, c'était, en fait, que t'étais avec quelqu'un que t'appréciais, en fait, à côté de toi. Mais sinon, le jeu lui-même, il a aucun intérêt, vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai fait A Way Out avec mon frère. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a plus apprécié les moments où on se chambrait et on s'embêtait entre nous, en y jouant, que le jeu lui-même. Parce que le jeu, même scénaristiquement, c'était prévisible, la fin du jeu, mais je l'ai vu venir à 10 km, hein, tu vois. Dès que j'ai fait... S'ils font ça, c'est vraiment nul. Et bah, il l'a fait, donc j'ai fait OK. C'était prévisible. Mais surtout que, ouais, comme tu l'as dit, le jeu, que ce soit en termes de scénario, bah, t'as beaucoup mieux, que ce soit en série ou en film, qui raconte l'évasion de prisonniers. En termes de jeux vidéo, coop, tu l'as dit, il y a beaucoup mieux que ça. Que ça soit chez Nintendo, qui sont les rois des party games à multijoueurs, ou que même sur PC ou sur d'autres plateformes, il y a des jeux qui font mieux que ça. Donc si tu veux, A Way Out, c'était un peu la déception, parce que quand on avait joué à Brother, on s'est dit putain, ce mec là il a quand même des idées, il vient du cinéma, et qu'un mec qui vient du cinéma arrive à aussi bien retranscrire ce qu'est un jeu vidéo, et pas, tu vois, pas faire que des cinématiques, c'est-à-dire qu'il a compris ce qu'était le média jeu vidéo, Et après, quand il sort A Way Out, tu te dis, est-ce que c'était un coup de chance ou ouais, le mec, il a vraiment du talent, quoi.
Donc, du coup, vous l'aurez compris, on l'attend un peu au tournant sur ce jeu-là. Moi, je suis prêt à redonner une chance parce qu'il m'a tellement ébloui sur Brothers que j'ai envie de voir ce que ce gars a proposé, quoi. Maintenant, sur la vidéo qu'on a vue, je vous avoue qu'au début, j'ai quand même eu un peu peur. Parce que, comment dire, t'as deux personnages qui jouent pas vraiment ensemble. C'est ça le souci que j'avais eu avec A Way Out. Maintenant, j'ai quand même l'impression que ça va pas être tout à fait ça. Parce que sur la suite de la vidéo, on voit que... Alors, je précise le pitch un peu. C'est un papa et une maman qui sont sur le point de divorcer. Et tout simplement, leur fils souhaite qu'ils se réconcilient. Et du coup, ce souhait, il est exaucé par un espèce de livre magique qui va les transformer en poupées. Et ces poupées, bon, j'imagine qu'elles vont devoir faire... Le livre va les forcer, entre guillemets, à coopérer ensemble pour qu'ils apprennent à se réapprécier, entre guillemets, quoi. Et donc, je pense que c'est lié à la narration. C'est-à-dire que le début, t'as deux personnages qui font un peu chacun leur vie de leur côté parce que on est encore à un moment dans l'histoire où les deux personnages peuvent pas se piffrer et où ils sont séparés, entre guillemets. Donc, t'as pas de dissonance ludonarrative, quoi. Ils essaient vraiment d'avoir quelque chose de cohérent. Par contre, on voit dans la suite de la vidéo qu'à un moment donné, le livre leur dit, alors, si vous voulez vous en sortir, il va falloir coopérer. Et là, comme par hasard, c'est à ce moment-là que tu commences à voir des bouts de gameplay où les deux personnages sont obligés de jouer ensemble pour pouvoir avancer. Et j'imagine, du coup, enfin, c'est la spéculation que je fais, que plus tu vas avancer dans l'histoire, plus la partie coopération va être prononcée parce que le livre va mettre des épreuves de plus en plus difficiles pour forcer les deux personnages à s'entendre, quoi, tout simplement.
Ouais, voilà. Et puis on imagine aussi que ça peut s'intégrer en fait totalement à la narration, en fait. C'est-à-dire que ce que tu feras en termes de gameplay dans le jeu, ça sera en adéquation avec ce qui te racontait l'histoire. Un peu comme ce qui avait été fait dans Brother, quoi. Sans spoiler le jeu, tu vois.
Donc, du coup, j'attends de voir. Je sais qu'avec Ben, on y jouera quand il va sortir. Ça sera l'occasion pour moi de me racheter auprès de Ben parce que il pourra témoigner, j'ai été imbuvable sur ce jeu. Mais vraiment, enfin, moi, quand j'aime pas un jeu, ça se sait tout de suite. Hein. Je rouspète tout le long. Déjà que l'expérience, si tu veux, elle était pas forcément agréable. Alors si, en plus, c'est avec moi qui râle tout le temps derrière, c'est voilà, bon, c'est... Donc, j'espère qu'on pourra passer un meilleur moment sur ce jeu-là. Voilà, voilà.
Après, okay, on peut quand même en dire quelques mots sur l'aspect graphique du titre. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, on parlait de l'aspect photoréaliste, là, c'est pas un jeu qui se veut graphiquement très proche de ce qu'on pourrait appeler du photoréalisme. Là, on a plutôt d'être dans un mix entre un univers cartoon et un peu, comment dire, pâte à modeler, quoi.
Il y a un petit côté Unravel.
Oui, Mardrain.
Il y a un petit côté Unravel, je trouve, dans l'ADA du titre.
Oui, surtout sur les décors, en fait. Parce que c'est vrai que les décors, mais ça, je pense
moi,
que ça vient surtout en fait, du moteur qui
utilisait.
Moi, ça m'a fait
penser à Little Big Adventure, en fait, en termes de rendu, je trouve.
Ouais.
Ouais, ça pourrait se rapprocher un peu de ce type de jeu-là. Mais comme tu l'as dit, moi, je reste quand même assez sceptique par rapport à ce que a été la déception de A Way Out. Et voilà, en fait, on va dire que ce jeu-là, je le ferai, mais j'attendrai quand même des retours, quoi.
Alors, le truc que je trouve intéressant, c'est que ils veulent visiblement exploiter aussi les caractéristiques des personnages, parce que la maman, c'est une espèce de poupée en bois, et le papa, c'est un personnage en pâte à modeler. Et donc, du coup, tu vois, par exemple, qu'à un moment donné, il y a un espèce de pot en verre, et pour casser le pot en verre, il faut que ce soit la maman qui le casse, parce qu'elle est en bois, et l'autre, il est en pâte à modeler, donc du coup, ça marche pas. Et je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire en termes de gameplay aussi pour améliorer ça. Alors par contre, juste une dernière chose pour terminer, il se trouve que Monsieur Fares c'est un peu le melon et qu'il a affirmé qu'il donnerait, je crois, $1,000 ou quelque chose comme ça aux gens qui se feraient chier sur le jeu. J'espère pour lui que c'est pas trop avancé parce que bon.
Ouais, mais... Et en plus, ça c'est quelque chose que c'est impossible de prouver, quoi. Même c'est-à-dire que si moi j'ai apprécié le jeu et j'ai envie de dire que je me suis fait chier dessus, il pourra pas prouver que je me suis fait chier dessus ou pas, tu vois. Donc c'est un peu con.
Non, mais après, non, mais c'est juste vraiment. Je parlais non, de mais... ça vraiment par rapport au... Enfin, mec, tu peux pas faire un jeu qui va plaire à tout le monde, c'est pas possible.
Non, mais de toute façon, il faut se rappeler quand le mec est arrivé complètement torché, je crois que c'était à une conférence de l'E3, où le mec il disait, ouais, fuck le cinéma, c'était vive les jeux vidéo. Ouais, voilà, tu vois, donc, en fait, le mec, oui, il a un certain melon, un certain ego. Après, comme j'ai envie de dire, tu vois, ça se trouve qu'il y a des gens qui apprécieront les jeux, mais juste pour le faire chier, ils seront capables d'aller lui dire ton jeu c'est de la merde sur Twitter en fait, juste parce que le mec n'aime pas la personnalité du mec, et ce qui n'a rien à voir en fait avec les qualités intrinsèques du jeu en fait. Tu vois, moi, même, juste parce que le mec il me fait chier, je suis capable de lui dire ouais ton jeu c'était de la merde, donc envoie-moi mes 1000 balles, tu vois.
Ouais. Ok, bon, moi, en tout cas, j'espère que le jeu, contrairement à A Way Out, n'oubliera pas d'être un jeu, puisque moi, c'est ce qui m'avait gêné. J'avais joué un petit peu au jeu, j'y ai joué 3 heures avec mon frère, via le Game Pass, et très honnêtement, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, quand est-ce qu'on commence à vraiment jouer, quoi.
Bah, t'avais un peu l'impression qu'il était plus préoccupé par le fait de raconter son histoire que...
Exactement.
Mais même bon, ça, une histoire vue et revue, en plus, c'est ça le problème, quoi.
C'est ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on connaît Prison Break, quoi. Donc, bon... on était un petit peu déçus là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, et puis dès que on commençait un petit peu à jouer, on se disait bon, ça y est, on va jouer. Et puis 2 minutes plus tard, ça y est, c'était reparti pour des cutscenes. Tu fais bon, ouais, d'accord.
mais en plus,
je sais pas pour toi, Morane. Moi, la seule séquence que j'avais trouvée potable, c'était celle en canoë où il fallait que les deux joueurs se coordonnent un minimum, quoi. Mais sinon,
non, mais ce que vous dites, c'est
le reste
quoi.
Du temps, j'avais l'impression de jouer. En fait, t'as deux personnages à l'écran et les deux personnages, ils ont pas vraiment d'interaction, quoi.
Le meilleur moment du jeu, c'est pas ça, il faut le dire. Le meilleur moment du jeu, c'est quand tu joues au puissance 4.
Ah oui.
Bon, donc vous aurez compris que A Way Out, on le porte pas spécialement dans nos cœurs, mais on espère que It Takes Two renouera plutôt avec l'excellente surprise qui était Brothers, The Tale of Two Sons.
Ah oui, lui, je le conseille, par contre, Brothers, c'était vraiment...
Qui, lui, pour le coup, n'oubliait pas d'être un jeu. Donc voilà, ça pour le coup, j'espère qu'on en verra les conséquences avec It Takes Two, dont on n'a pas la date de sortie, me semble-t-il.
Mais en plus, ce qui est intéressant dans ce jeu-là aussi, c'est quand même que, en fait, on va jouer des parents. Et en général, dans le jeu vidéo, tu joues soit des adolescents, soit le mec qui a la trentaine, mais qui est célibataire et tout. Et là, le fait de jouer quand même des personnes qui ont un certain âge, qui ont été mariées et tout, je trouve ça intéressant. Tu vois, même par ce prisme-là dans le jeu vidéo, c'est quand même un contexte assez atypique. Et si tu veux, ça peut être intéressant aussi de ce point de vue-là aussi.
Ouais. Alors, pour info, ça sort le 26 mars sur PlayStation 4, 5, Xbox One. Série S. Enfin bref, okay. Voilà.
Parfait. Merci Tyran. Mais en tout cas, tu vois, je pense que pour le coup, c'est intéressant de voir en tout cas que Electronic Arts n'abandonne pas du tout ce développeur et son studio, malgré l'échec critique de son précédent jeu. Je pense que l'erreur, ça a été de lui donner un trop gros budget tout de suite après le premier succès. Qui était Brothers, quoi. Et là, peut-être qu'avec un budget un peu plus réduit, ils sont un petit peu remis sur les fondamentaux. En tout cas, je l'espère. Voilà. Bon, passons à la suite avec Epic qui rachète encore quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils rachètent cette fois ? Eh bien, c'est Mediatonic, les développeurs de Fall Guys Ultimate Knockout. Alors, c'est pas un peu tard pour racheter Fall Guys, là, les amis ?
J'allais poser la question, tout le monde s'en fout pas de Fall Guys maintenant ou enfin j'ai l'impression qu'il est un peu passé à la trappe le jeu, donc j'avoue j'ai du mal à comprendre pourquoi Epic s'est lancé là-dessus. Enfin d'ailleurs d'une manière générale, j'ai du mal à comprendre pourquoi les deux parties se sont trouvées, on va dire. C'est-à-dire que du côté d'Epic, bon, la hype Fall Guys elle est un peu passée, quoi. Alors peut-être qu'ils pensent pouvoir en faire quelque chose et qu'ils trouvent le concept intéressant, et de l'autre, vu les ventes du jeu, ça sert à quoi d'aller chez Epic ? Qu'est-ce que ça va apporter, en fait ?
Parce que vu que c'est un jeu qui est là pour être sur le long terme, comme c'est un jeu game as service, je pense que le meilleur moyen, en fait, de rentabiliser l'achat par Epic, ça serait d'avoir un contenu saisonnier. C'est-à-dire que, en fait, Fall Guys, si tu veux, c'était un jeu.
Mais c'est déjà le cas, TH.
Ouais,
c'est ça le truc. Ils ont pas attendu Epic pour le faire.
Ouais, mais regarde, en fait, Fall Guys, si tu veux, c'est un jeu qui a eu succès. L'année dernière en mois de juillet août, c'est-à-dire pendant les grandes vacances. Et je pense qu'en fait, si ce jeu-là, en fait, tu pourrais le rendre annuel, c'est-à-dire avec un contenu annuel qui arriverait tous les ans, et de faire une sorte un peu de d'Interville, tu vois, un jeu qui serait un truc type Interville, Fort Boyard, avec une nouvelle année, un nouveau contenu qui changerait quand même pas mal de choses, et qui permettrait à Fall Guys, en fait, si tu veux, d'avoir une durée sur la longueur. Parce que Fall Guys, c'est vrai que c'est un jeu
qui... C'est ce qu'ils font déjà, encore une fois, à TH. Et tous les... À chaque... Là, au printemps, ils vont refaire quelque chose. En hiver, ils ont fait un nouveau truc. Ils préparent du nouveau contenu. Hein. Enfin, c'est vraiment déjà un game as a service, en fait, quoi.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais ce qui serait intéressant, c'est justement d'avoir ce rendez-vous très important de cette période-là où les enfants sont plus à l'école et que les parents et les enfants puissent jouer ensemble. Et que justement Fall Guys soit vraiment quelque chose qui soit ancré comme, si tu veux, un jeu de l'été en fait.
D'accord, mais est-ce que t'as besoin d'Epic pour ça ?
Ah non, t'as pas besoin.
En fait,
ah non.
Moi je pense que le rapprochement a du sens avec Epic parce qu'on le sait, les développeurs de Mediatonic ont un peu galéré avec des soucis de connectivité, de netcode pendant une grosse partie de l'été. Et je pense que c'est le rapprochement est pas déconnant de ce point de vue-là. Après, je pense
que tu penses qu'ils ont une expertise technique qui pourrait les aider sur la partie réseau, quoi.
Je pense, ouais, que en tout cas le rachat de ce point de vue-là et le potentiel de profiter d'une expertise de ce point de vue-là, ça peut les aider. Après, il y a un autre truc et c'est d'ailleurs une des premières choses que les gens ont dit sur Twitter quand on a appris la nouvelle, c'est bon bah alors dépêchez-vous à l'acheter parce qu'il va du coup devenir exclusif à Epic Games comme l'a fait Rocket League. Il y a un certain temps déjà, les gens ont peur de ça. Donc c'est un autre souci. Je suppose que en tout cas, les développeurs ont contredit ces premières réactions en disant que non, le jeu pour l'instant il irait nulle part et il serait toujours payant pour l'instant.
Oui, je disais pareil sur Rocket League. Hein.
C'est ça. Donc du coup, je pense que, enfin, s'il y a bien un jeu qui peut prendre la même direction que Rocket League chez Epic Games en son temps. C'est bien Fall Guys, parce que c'est, comme le dit ATH, c'est vraiment le jeu à service type qui peut être amené à être développé petit à petit, et qui l'est déjà, hein, je crois que c'est la saison 4 déjà en ce moment.
Ouais, mais ça c'est incompréhensible en fait, tu vois, pour les gens qui sont complètement extérieurs, saison 4, alors que le jeu ça fait même pas un an qu'il est sorti, tu vois, moi j'ai du mal en fait, si tu veux, avec ces nouveaux types de contenus, c'est-à-dire des jeux comme Fortnite et tout. On me dit on est à la saison 45, mais je dis mais attends, c'est-à-dire il y a en fait la saison c'est tous les combien de temps dans le jeu, et t'as pas, et si t'es extérieur au jeu, par exemple comme moi, tu sais pas à quoi ce que correspond en fait la vraie saison. Et moi je pense que au lieu de faire des petites saisons qui vont changer,
ouais,
des
mais
trucs
ça marche
tout,
à TH hein,
ouais, mais non, j'ai pas dit
font,
que ça marche,
ça cartonne hein, c'est,
non mais j'ai pas, alors par contre j'ai pas dit que ça marchait pas, mais j'ai dit ça serait pas mieux de continuer à faire ce genre de saison là comme ce qui est là, mais vraiment d'avoir tous les ans, ou je sais pas moi, tous les 6 mois, vraiment ouais, une grosse mise à jour qui...
Oui, en gros, avoir un rendez-vous par an où t'as un gros truc qui arrive, quoi.
Voilà, genre le méga événement qui arrive, et puis après tu continues les saisons classiques comme tu le fais, parce que les saisons, c'est vrai que ça permet de renouveler les gens qui sont là sur le long terme, parce que des jeux comme Fortnite... qui sont là depuis longtemps, la plupart des gens qui y jouent régulièrement, c'est des gens qui sont habitués à ce jeu-là. Alors qu'il y a des gens qui ont testé pendant quelques temps, qui ont bien aimé le jeu, mais après ils sont passés à autre chose. Si tu veux, il y a dans ce type de public, t'as des publics qui sont scotchés à ce jeu-là, qui vont y jouer de manière quotidienne, et vont revenir, et il y a des gens qui vont venir de manière occasionnelle. Et je pense que pour faire revenir les gens qui ont fui un peu Fall Guys ces derniers temps, c'est justement de leur ramener une vraie grosse mise à jour, parce que le jeu en lui-même c'est vraiment un bon jeu. En plus ça, ouais, d'avoir une espèce d'interville du jeu vidéo, bah c'est pas très commun en fait, tu vois, surtout qu'ils jouent à autant de joueurs et tout. Et moi je trouve que si tu veux le papier, l'idée elle est bonne. Moi je trouve que c'est un jeu qui, quand il est sorti, il était rafraîchissant, c'était cool. Et j'espère que c'est un jeu qui va quand même continuer à être développé, mais dans le bon sens, et pas sortir des saisons pour sortir des saisons puis si tu veux faire de la rentabilité sur le market en fait. Moi je veux vraiment que ça soit un jeu qui soit cohérent de bout en bout et qui est, c'est un jeu qu'on se rappelle dans 20 ans en fait, pas un jeu qui soit juste un effet de mode.
Alors pour info, ATH, il y a un jeu qui fait déjà ce que tu dis et c'est un excellent jeu, ça s'appelle Path of Exile. Voilà. Il fait exactement ça, c'est-à-dire que t'as un rendez-vous tous les ans où t'as une grosse mise à jour et ils font des saisons tout au long de l'année. Voilà, ouais. Ouais. Et Path of Exile, c'est le phénomène du hack and slash de ces dernières années. Donc, la preuve que
non,
ça
mais
marche.
Je pense que c'est intéressant parce que quand tu sors des saisons comme ça qui rapportent des petites mises à jour par-ci par-là, avec du contenu qui va changer, ou bien juste de manière visuelle, et que si tu proposes une grosse mise à jour qui te donne un gros rendez-vous, c'est un peu comme... pourquoi je prends cet exemple-là ? En fait, je m'inspire, si tu veux, de ce qu'a fait World of Warcraft. C'est-à-dire, World of Warcraft, c'était un jeu qui avait eu beaucoup de succès. Et puis après, au fur et à mesure du temps, les gens commençaient à délaisser le jeu. Et dès qu'il sortait une grosse mise à jour, bam, les gens y revenaient, en fait. Dès qu'il y avait un contenu qui sortait, genre Légion, les gens sont revenus. Alors que c'était des gens qui avaient plus joué au jeu, peut-être depuis un an ou deux. Ils sont quand même revenus au jeu, ils ont fait... ce qu'ils avaient à faire, donc c'est-à-dire peut-être juste la quête principale, et puis après ils se sont pas attardés, ils sont repartis, mais au moins ça permettait d'avoir le public volatile qui permet de revenir un certain temps, et du coup les gens commencent à reparler du jeu, et il commence à y avoir un peu cet effet de buzz, et en fait comme Fall Guys a eu son succès, c'est-à-dire Fall Guys, les gens ont commencé à en parler, et puis ça a fait l'effet boule de neige, quoi, l'effet boule de neige qu'on a connu, quoi.
Vous y aviez touché, vous, à Fall Guys ou pas, Marwan?
Pas du tout. Moi, c'est un jeu pour le coup que... En fait, c'est un jeu qui m'a fait envie parce que vous savez que j'aime bien les jeux de plateforme. Le problème, c'est que moi, on m'a toujours dit Fall Guys, c'est bien pour les niveaux de plateforme, mais par contre, qu'est-ce qu'on se fait chier sur les autres trucs? Et donc, du coup, moi, en fait, je l'avais vu au début de la hype, mais au début de la hype, tu pouvais pas lancer, tu sais, des parties où tu ne fais que des ouais. niveaux de plateforme. Mmh. Du coup, ça, a priori, ça a été corrigé depuis. Mais depuis, en fait, la hype est complètement redescendue. Et il y a aussi le fait que, pour moi, c'est... En fait, quand j'en ai entendu parler, j'étais en vacances et je me suis dit, mais ça, ce jeu... Tu sais, je voyais des vidéos et tout, je me disais, mais ça, ce jeu, je comprends pas pourquoi il est pas gratuit, en fait. Et donc du coup j'avais un peu laissé tomber, puis je m'en suis complètement désintéressé parce qu'en fin d'année il y a eu d'autres trucs à faire, mais Fall Guys, je pense que c'est un jeu qui fondamentalement m'amuserait bien.
Moi j'y ai joué, et alors j'y ai pas joué ultra longtemps, enfin c'est surtout un jeu que je lançais, si tu veux, un peu avant d'aller me coucher, histoire de me détendre un peu. Je faisais 2-3 parties, puis j'arrêtais, donc c'est pas un jeu que j'ai poncé de fond en comble. Mais comme dit Mordrain, c'est vrai qu'il y avait certains niveaux qui étaient inégaux par rapport à d'autres, notamment certains mini-jeux qui te... En fait, si tu pouvais rien faire et attendre juste la fin du timer et puis aller sur la case pour qui te permettait de gagner, et du coup, c'était pas très intéressant par rapport à ça. Mais les jeux qui étaient vraiment type Interville, où il y avait des obstacles et tu devais arriver au bout, et que t'étais pas obligé de pousser les gens dans le vide ou bien attendre que tout le monde s'entretue pour gagner. Ça, je trouvais que c'était des niveaux qui marchaient bien.
Ouais, c'était les meilleurs, franchement.
Bien sûr.
Je suis d'accord.
Et puis après, tu vois, par exemple, il y a KBD dans le chat qui nous dit c'est l'argent qui dirige leurs décisions. Et je suis d'accord. Mais en fait, il y a moyen de faire de l'argent d'une bonne façon et d'une mauvaise façon. C'est comme tout, en fait. Si c'est un jeu de qualité qui te permet d'avoir vraiment un contenu régulier, les gens, ils vont continuer à y rester parce que ton jeu, il sera bon, et puis t'auras toujours les gens qui vont continuer à payer par rapport à ça. Il y aura toujours les gens qui sont là, qui ont poncé le jeu, qui vont continuer à acheter des skins exclusifs, ou ce genre de choses. Donc moi, je pense que faire de l'argent et faire de la qualité, c'est pas incompatible, en fait.
Ouais. À voir, en tout cas, mais très clairement, s'ils prennent la voie du jeu gratuit, du coup, avec microtransactions, le business des skins, à mon avis, sur Fall Guys, t'inquiète que ça va y aller. Ok, eh bien, écoute, parlons de l'autre mastodonte de l'univers PC, qui est Valve, et Valve qui, pour le coup, cette semaine, a annoncé, j'ai envie de dire, l'inévitable, c'est-à-dire l'arrêt des soins palliatifs de son jeu de cartes Artifact. Est-ce que finalement, ça n'est pas la confirmation que de ce qu'on disait depuis des mois ?
Alors, je me pose quand même une question par rapport à l'annonce, parce que, juste pour rappeler les faits, ils avaient annoncé Artifact 2. En gros, c'était l'idée, oui, vous allez voir ce que vous allez voir, on va tout remettre à plat et on va faire un truc génial. D'accord, ok. Bon, vous savez que nous ici, on n'était pas franchement convaincus. la justification qu'ils ont donnée actuellement pour justifier l'arrêt du développement d'Artifact 2, c'est on n'a pas assez de joueurs. Alors, admettons, Sauf que moi, j'avais pas trop suivi l'actualité du jeu, donc du coup, je suis allé me renseigner sur Reddit pour voir ce qui s'était passé jusqu'ici. Et il se trouve que le jeu était en bêta fermée. Donc, bêta fermée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde ne peut pas y jouer. Et il se trouve que les gens qui sont sur Reddit disaient qu'ils n'avaient, pour la plupart, pas reçu de code d'invitation pour leurs amis. Donc, effectivement, oui, il n'y a pas de joueurs, mais en même temps, vous avez fait quoi pour augmenter la base de joueurs ? Donc, moi, mon sentiment sur la question, c'est que nous, on n'était pas convaincus et que visiblement, chez Valve non plus, quoi. Parce que je rappelle la structure de chez Valve, quand même. Ils ont des bureaux qui sont amovibles et ils peuvent changer de projet quand ils veulent. Et moi, mon intuition là-dessus, c'est que c'est passé ce qui s'est toujours passé chez Valve quand un projet battait de l'aile. Bah, écoute, ils sont passés à autre chose et puis c'est tout, quoi. Et puis, bon, ouais, il n'y a pas de joueurs. Bah oui, mais t'es en bêta fermée. Là, c'est bizarre depuis qu'ils ont rendu le jeu gratuit, parce que on précise qu'ils ont rendu les deux versions du jeu accessibles gratuitement. Le nombre de joueurs était multiplié par 10. Donc, moi, j'ai quand même un peu le sentiment que, oui, alors certes, j'étais pas franchement convaincu. Et de toute façon, depuis qu'il a été annoncé, ce jeu, il a convaincu personne. Enfin, je vous rappelle l'annonce du jeu quand même, où il y a des gens qui hurlaient de déception parce qu'ils en avaient rien à foutre d'un énième jeu de cartes et qui voulaient un vrai jeu, entre guillemets, hein, de la part de Valve, quoi. Donc, ce jeu, effectivement, il a jamais convaincu énormément de monde. Maintenant, je trouve que pour des gens qui, il y a quelques mois, nous disaient « Vous allez voir ce que vous allez voir, on va tout remettre à plat, on va tout refaire », bah ils ont pas visiblement pas beaucoup insisté. Enfin, ça fait un peu Anthem, quoi, si tu veux. C'est-à-dire, on a mis trois pèlerins sur le truc, et puis en fait, ils en ont eu marre et ils sont allés faire autre chose, quoi. Enfin, c'est vraiment le sentiment que ça donne, quoi.
Je trouve quand même que t'es assez méchant, je crois. Ce jeu a eu quand même plus d'ambition qu'Anthem.
Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est pas très étonnant, parce que Artifact, pour le coup, ça sentait le cul dès le départ, parce que le côté on te lit l'échange de cartes avec le Steam Marketplace, et puis ouais. Du coup, peut-être que tu pourrais aussi en acheter à ceux qui en vendent, et puis bon, ça commence à faire beaucoup de trucs, tu sais, qui sentent un peu le pâté, et je pense que c'est ça aussi qui a pas forcément aidé, mais très clairement, c'est assez hypocrite de dire on n'a pas assez de joueurs, alors que les gars, en fait, si tu veux avoir des joueurs, tu ouvres ta bêta, en fait, au bout d'un moment.
Bah oui.
Et donc c'est un peu... Tu sens que, bah, comme d'habitude, hein, souvent, c'est pas ce qui manque, hein, les petites excuses pour se cacher derrière son petit doigt et annuler quelque chose. Bon, là, très clairement, on en est dans un bel exemple. Mais voilà, bon, bah, tant pis, hein, Artifact ne sera pas le nouveau Hearthstone. Bon, non pas qu'on y croyait, mais voilà.
Juste pour répondre aux gens, tu sais, qui... nous ressortent le sempiternel, oui, mais franchement, le modèle économique du jeu, il était trop bien, au moins t'as pas de lootbox. Alors ça, c'est bien de pas mettre de lootbox. Et c'est vrai que tu pouvais avoir un deck pas trop cher au début du jeu. Mmh. Mais ce que ces gens oublient à chaque fois de dire, et ça m'irrite beaucoup, c'est que si le jeu avait cartonné, le prix des cartes se serait envolé. Et ton deck pas trop cher, il t'aurait coûté 300 balles.
Bien sûr. Voilà. Et à ceux qui disent, tu sais, que tu ne peux pas faire marcher un jeu de cartes sans microtransactions, je vous renvoie sans lootbox plutôt. Je vous renvoie à l'exemple de Legend of Runeterra, qui pour le coup n'utilise pas de lootbox, qui quasiment à chaque fois que tu joues te donne des cartes et qui ne fonctionne uniquement que sur les microtransactions cosmétiques. Et ben visiblement ça fonctionne. Et c'est un tout petit peu plus, on va dire, ambitieux que ce que faisait Artifact en son temps. Donc, rest in peace, Artifact, mais si vous voulez un bon jeu de cartes, allez sur Legends of Runeterra.
Moi, je suis d'accord avec ce que dit Killchat dans le chat. C'est au moins, pour une fois, les développeurs, ils n'ont pas utilisé l'excuse du Covid, tu vois, pour annuler un jeu.
C'est pas faux. Allez, passons à la suite avec un segment, on va dire, RH. Puisqu'on en parle régulièrement, mais le crunch, ça n'est pas que dans les studios qui ont pignon sur rue, c'est aussi dans les studios chez qui les studios outsourcent, tout simplement. Tiens. Ouais.
Alors, c'est un reportage de la chaîne YouTube People Make Games. Je vous mettrai bien entendu le lien pour pouvoir aller le regarder. Je précise que c'est une chaîne qui est financée via Patreon, comme quoi ça sert à financer des créateurs, hein. Tu peux avoir des reportages intéressants comme ça, où ils se sont intéressés à un pan du jeu vidéo auquel on ne s'intéresse pas assez. C'est tout simplement ce qu'on appelle l'outsourcing, c'est-à-dire que, vous le savez, bon, pour faire des AAA aujourd'hui, certes, on a des studios comme Ubisoft, machin, qui ont des équipes de 300, 400, 500, 600 personnes. Sauf que ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, entre guillemets. En réalité, il faut beaucoup plus de gens que ça. Et ces gens, ils vont les chercher où ? Ils vont les chercher en Asie, ils vont les chercher dans tous les pays où la main-d'œuvre, elle est pas chère, et où on peut presser comme des citrons des prestataires pour qu'ils te rendent dans des délais totalement déraisonnables ce que tu leur as demandé. Donc, ouais. C'est quelque chose qui est pas forcément très connu parce que c'est pas franchement mis en avant, mais c'est un reportage que je trouve très important qui montre aussi que, alors certes, il y a des choses scandaleuses qui se passent en Occident, mais il y a toute une partie de l'iceberg qu'on ne voit pas et il ne faut pas l'oublier parce que c'est pas, même si un jour on a une boîte qui est super clean, en tout cas sur ces studios occidentaux, il faudra quand même aller checker derrière si, comme Apple, dans leurs usines en Chine, il se passe pas des trucs qui vont pas, quoi. Mmh. Voilà.
Ah ouais, non, mais ça, c'est... Malheureusement, c'est pas un sujet qui touche que le jeu vidéo, déjà. Mmh. C'est un sujet qui touche plein de domaines. Mais c'est vrai que dans le jeu vidéo, c'est très peu mis en avant. Par exemple, pas beaucoup de gens savent que beaucoup de jeux sont outsourcés, par exemple en Inde, où les salaires sont très bas. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans ce genre de thématique, c'est que oui, sur le papier, tu peux avoir une boîte qui est éthique et morale avec leurs employés, et ça se passe bien ici, mais tu ne sais pas ce qui se passe à l'autre bout du monde pour des développeurs qui sont payés la plupart du temps au lance-pierre, et surtout qui sont en train de faire du outsourcing, et tu sais pas dans quelles conditions de travail ils travaillent, ces mecs-là. C'est-à-dire que, des fois, ça peut bien se passer, hein. Tu peux avoir de l'outsourcing qui se passe très bien des deux côtés, et que, justement, ces mecs-là, c'est pas parce qu'ils sont en Inde justement qu'ils peuvent pas travailler dans le jeu vidéo, hein, parce que c'est complètement con, tu vois, que c'est bien aussi que des boîtes leur donnent du boulot. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir si ces mecs-là, tu vois, justement, il y a pas des... Alors c'est sûr que c'est pas pareil que l'industrie du textile, mais tu vois, par exemple, dans l'industrie du textile, t'avais des conditions quand même qui étaient scandaleuses, où il y avait des mineurs qui bossaient dedans. Une fois, j'avais vu un reportage où c'était carrément des... une gamine de 14 ans qui bossait dessus dans un truc pour fabriquer des chaussures, quoi. Là, dans le jeu vidéo, je suppose que c'est pas du tout pareil, parce que c'est pas du tout les mêmes compétences qui sont demandées.
Oui, là, mais... c'est quand même un domaine où il faut avoir fait des études pour pouvoir faire du jeu vidéo, quoi. Tu peux pas prendre la première personne qui passe dans la rue pour qu'elle fasse un truc, quoi.
Voilà, tu peux pas prendre un gamin de 12 ans et tu dis, bah, maintenant, tu vas coder GTA 6, par exemple. Mais, tu vois, c'est ce qui serait intéressant de voir, c'est justement si ces mecs-là, par rapport à leur au salaire moyen dans leur pays, si ils sont plutôt dans la fourchette haute ou dans la fourchette basse, si les conditions sont respectées, c'est-à-dire qu'ils bossent pas plus de telle heure par semaine et qu'ils ont des bonnes conventions qui ont été signées en fait avec l'éditeur ou le développeur qui demande de la prestation.
La réponse, si ces choses-là dans sont... le reportage, et spoiler alerte, non.
Non, mais voilà, parce que dans le reportage, il y a des exemples qui sont pas, ça se trouve, qui sont pas très bien montrés, mais je suis certain que dans le monde, quand même, il y a des boîtes qui doivent quand même bien bosser, tu vois. Je suis pas entièrement pessimiste par rapport à ça, en fait. C'est-à-dire que je veux pas voir le mal dès que c'est quelque chose qui est outsourcé. Forcément, c'est mal, en fait. C'est ça que je veux dire. Après, je suis quand même conscient que la plupart du temps, si ces mecs, ils vont dans les pays comme ça, bah, c'est pour en profiter au maximum, quoi.
Bah, c'est surtout que le problème qui est décrit dans la vidéo, t'as des boîtes qui sont en concurrence et c'est à qui fait la meilleure offre. Donc, forcément, en tout cas, très souvent, c'est le moins disant et celui qui va fournir dans les plus brefs délais qui va avoir le marché, tout simplement. Et quand tu en es à choisir le moins 10 ans parce que tu leur demandes des délais totalement déraisonnables, etc., bah forcément, ça va produire de la casse. C'est obligé. et quand c'est géré comme ça, voilà. Bah après, je pense qu'il y a peut-être des boîtes qui négocient, tu sais, pour avoir des délais raisonnables, etc., qui ont déjà travaillé avec un prestataire, donc du coup, ils reviennent tout le temps vers ce prestataire-là plutôt que de faire jouer systématiquement à la concurrence, quitte à demander des choses totalement déraisonnables. Mais on va dire que le reportage n'incite pas à l'optimisme. Voilà.
Ouais. Ouais. On en revient, tu sais, au sempiternel problème qui est que bah les jeux sont de plus en plus gros et pour tenir la cadence, on est obligé d'avoir recours à des choses qui sont potentiellement moins chères et quand c'est potentiellement moins cher, bah peut-être que c'est potentiellement moins bien fait ou alors fait avec beaucoup plus de pression pour l'employé et bon bah voilà, ça va dans le sens de des révélations qu'on a depuis presque 3 ans maintenant, qui est que bah l'industrie du jeu vidéo c'est pas forcément une industrie dans laquelle où on vit le mieux en tant qu'employé de bas étage malheureusement. Donc attention évidemment à tout ça, quoi.
C'est quelque chose qui a beaucoup changé parce que dans les années 80-90, quand t'avais un studio de développement, bah en fait quand tu faisais un jeu, vous étiez déjà une petite équipe, mais tout ce que vous faisiez était fait justement en interne et t'avais un rapport direct avec les mecs avec qui tu bossais. C'est-à-dire que en fait tous les outils de développement étaient faits sur place, même les moteurs de jeu. Des fois il y avait des jeux qui étaient créés spécialement, enfin un moteur de jeu qui était créé spécialement pour un jeu en particulier. Et si tu veux, tout ça se faisait dans un contexte où il y avait pas de prestataires qui intervenaient, ou bien il y en avait très peu, mais t'avais la maîtrise en fait sur ce que les gens faisaient. Et plus on a avancé avec les technologies qui sont devenues de plus en plus puissantes, qui étaient de plus en plus gourmandes, plus t'as eu des studios externes qui se sont attachés à des projets. Mais là où ça pose un problème, c'est que si on mettait par exemple la provenance d'un jeu, tu sais, un peu comme sur les vêtements et tout ça, ce jeu est fabriqué en France par exemple, et si on mettait la provenance sur chaque type de boîte, made in USA et made in Japan par exemple, bah, y a plein de gens qui seraient surpris de voir que bah, ce jeu-là, il a été créé par exemple en Indonésie, une partie peut-être en Europe de l'Est et une partie au Japon. Et il y aurait plein de choses en fait que je pense que le grand public découvrirait par rapport à ça. Et je trouve que c'est bien quand il y a des reportages justement qui mettent l'accent dessus. Et encore plus quand les conditions de travail sont dans des conditions exécrables, quoi.
Voilà, bon, on va passer à la dernière news de cette semaine. Alors c'est un truc que j'ai appris sur notre serveur Discord, puisque Tyron, tu nous as envoyé un message vendredi soir en mode il y a quelque chose qui se passe. Chez les jeux Electronic Arts sur Steam, les anciens jeux Electronic Arts, a priori, il y a des gros soucis de clés. Que se passe-t-il, tiens?
Bah, c'est simple, j'ai téléchargé Dead Space 2, et ouais. Quand je lance Dead Space 2, il me dit qu'il ne peut pas le lancer parce qu'il n'a pas la clé.
Ah.
Donc... C'est un problème qu'il y a depuis à peu près 3-4 jours. Ça touche principalement, enfin même exclusivement, des anciens jeux Electronic Arts. Il y a Dead Space 2, mais j'ai cru voir du Crysis aussi. Enfin, il y a plusieurs jeux, plusieurs anciens jeux EA qui sont touchés. Alors, je vous explique un peu le délire, parce que au départ, je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible, pourquoi ils ont fait ça? Parce que visiblement, c'est Electronic Arts qui a révoqué les clés CD, entre guillemets, qui était lié à ces jeux. En gros, il y a Securom qui est installé sur ces jeux-là, et Securom, il a plus la clé qui était enregistrée dans Steam, et donc du coup, il dit, waouh, moi, je peux pas le lancer, désolé. Donc, si vous voulez une solution rapide pour jouer à ces jeux-là, bah, craquez vos jeux. Qu'est-ce que je vous dise, hein. c'est fabuleux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, il y a eu un souci avec EA Play récemment. Vous savez, l'abonnement d'Electronic Arts pour... Enfin, c'est le Xbox Pass, c'est le Xbox Game Pass d'Electronic Arts, en gros, quoi. L'abonnement pour jouer à plein de jeux, Electronic Arts, oui. etc. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils prenaient un abonnement EA Play, ils récupéraient les clés CD, parce qu'on peut les récupérer, et ils les revendaient.
Ah!
C'est vraiment excellent, ça.
Voilà. D'accord, putain, la vache.
Donc, du coup, Electronic Arts a réglé le souci en révoquant ces clés-là.
Mm-hmm.
Le problème, c'est que visiblement, dans le processus, ils ont révoqué toutes les clés SIM.
Putain, quel enfer.
En tout cas, enfin, toutes les clés, peut-être pas, mais une grosse partie. Parce que j'ai quand même vu des gens qui disaient qu'ils n'avaient pas de soucis. Mais il y a plein de gens qui ne peuvent plus jouer à leur jeu. Ils ont payé.
Putain, c'est... Oh. Ah ouais, le nettoyage au napalm, comme on appelle ça.
Exactement, c'est ça.
J'appelle ça un nuke, moi, personnellement.
Oh. Alors, merde.
Là, vous voyez, bon, je rigole, mais en vrai, j'ai pas du tout envie de rigoler, parce que ce qui vient de se passer, et personne n'en parle, parce que c'est des vieux jeux, et que bon, voilà, visiblement, ça intéresse personne. Mais ce qui vient quand même de se passer, c'est qu'un éditeur, du jour au lendemain, a retiré l'accès à des jeux qu'on a payés sur Steam. Et le pire, c'est que quand tu vas voir le support technique d'Electronic Arts, parce que c'est pas la peine d'aller voir Steam, hein, Steam, ils vous disent, écoutez, nous, on peut rien faire, on n'a pas la main sur les jeux. Donc, c'est pas nous qui avons le code de Securom, c'est... Voilà. Donc, quand tu vas voir le support d'Electronic Arts, ils demandent aux gens, alors, pas de fournir la preuve d'achat que tu peux récupérer dans Steam. Ils te demandent de fournir le putain de mail que Steam t'a envoyé le jour où tu as acheté le jeu.
Ah, putain.
Alors, si le jeu, vous l'avez acheté... Alors, déjà, il y a beaucoup de gens qui gardent pas ces mails-là, parce que bon, oui, bah, merci, j'ai acheté le jeu. Ouais. Surtout que la facture, elle est récupérable dans Steam, donc je vais pas garder le mail, quoi. C'est complètement con. Et imagine, en plus, même les gens qui gardent, bah imagine, ils l'ont acheté, je sais pas, Dead Space ou Dead Space 2 à la sortie du jeu. Bon, ça fait quand même quelques années, quoi, qu'ils sont sortis les jeux, donc on va peut-être pas garder tous les mails jusqu'à la fin des temps, quoi, non plus. Et ouais, là, le support Electronic Arts, il te dit, moi, il me faut une preuve, envoyez-moi le mail, mais vous foutez de ma gueule.
Surtout si t'as changé d'adresse mail, tu sais, entre-temps,
ah oui,
parce que c'est souvent le cas.
Bah oui.
Ah ouais, c'est chaud.
Non, mais en plus, ça, qui garde les mails des jeux qu'il a achetés, quoi, sans... C'est complètement con, en fait. En fait, moi, ce que je trouve là où ça devient problématique, c'est que bah tu possèdes rien, en fait, quand t'achètes un truc en dématérialisé. Vraiment.
Bah, c'est-à-dire là, c'est la preuve par A plus B. Hein.
Ah bah, clairement, ouais.
Et c'est pour ça que bah s'il y a des gens qui se sentent floués par ce qu'Electronic Arts a fait, bah qui, comme Tyran, tu l'as dit, qui craquent les jeux, et puis voilà, en fait. Le jeu, ils l'ont déjà payé de manière totalement honnête. Il y a la facture qui est sur... qui est sur Steam ou sur la plateforme sur laquelle ils l'ont acheté. Bah si Electronic Arts veut pas jouer le jeu, bah écoute, au bout d'un moment, en voir, quoi, en fait. Vous voulez pas jouer le jeu, bah ok, bah allez vous faire foutre, on va craquer le jeu et puis voilà.
Alors moi, c'est pas un crack que je vais demander. Moi, pour le moment, j'attends de voir ce qui va se passer, parce que vu comment ça gueule sur les forums de Steam, ils s'y relient dans d'autres forums, etc. Vu comment ça gueule, j'ose espérer qu'Electronic Arts va essayer de trouver une solution. Mais s'il ne trouve pas une solution, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir Valve et je vais leur dire, écoutez, vous vendez des jeux dont les clés CD ont été sont plus utilisables, moi, j'en ai rien à foutre, vous me remboursez. Hein. Je suis désolé. À un moment donné, faut être sérieux, quoi. Tu peux pas vendre des trucs qui ne marchent pas. C'est pas possible. Donc je veux bien que ce soit pas la faute de Valve. C'est pour ça que moi je dis, n'allez pas emmerder le support de Valve, ils y sont pour rien.
Bien sûr.
Mais par contre, je suis désolé, si Electronic Arts ne fait rien, chez qui je vais me retourner en dernier ressort, c'est pas vers les cracks, hein. Moi je vais pas m'emmerder.
Bah oui.
Le crack, j'irai télécharger le jeu, y a pas de problème. Mais Steam va me rembourser, par contre. Parce que là, voilà, moi j'ai un jeu que je peux utiliser.
Je me pose une question maintenant, du coup, c'est est-ce que les jeux qui sont en vente, ces jeux-là qui sont en vente sur Steam, est-ce que quand tu les achètes maintenant, ils sont lançables ou pas ? Si ça se trouve, ça l'est pas non plus. Hein.
Je ne sais pas. Alors,
c'est chaud.
Je
hein.
précise qu'il y a eu, je crois, un site internet un peu obscur qui a parlé de ce truc et qui a eu une réponse d'Electronic Arts. Electronic Arts leur a dit « Oui, le problème est réglé ». Ah super, bon, si Electronic Arts le dit, c'est qu'il n'y a plus de problème. Bon, sauf que t'as encore plein de gens comme moi, par exemple, qui ne peuvent pas lancer leur jeu, mais il paraît que le problème est réglé, donc voilà.
Hein. Ouais.
Donc bon, non, j'imagine, en fait, du coup, que s'ils disent le problème est réglé dans leur tête, ça veut dire les nouveaux jeux qui sont achetés, tu vois, ça marche. Enfin, j'espérais, parce que sinon, c'est une tâche de gueule quand même, quoi.
Et en fait, Electronic Arts, ils n'ont même pas répondu. Ils ont envoyé une vidéo de Claude Makélélé qui, à l'époque, avait dit, ouais, Brésil, pas Brésil, m'en bats les couilles, tu vois. Eux, je pense qu'ils ont, c'est le même genre de réponse qu'ils vont donner, en fait. C'est-à-dire que, en fait, eux, maintenant, ils sont dans un état où pour eux, le souci est clos. Et du coup, les gens qui... en fait, le souci est clos, la majeure partie du problème a été réglée, et il reste que quelques personnes dans le monde qui sont touchées, mais ça touche pas la grande partie, parce que la grande partie a été réglée. Ça, c'est selon, tu vois, ce que les Electronic Arts veut faire croire. Mais le problème, c'est que, déjà, que il y a une personne ou 10 000 dans le monde qui se sentent floués, bah, tu dois faire quelque chose, hein. C'est pas parce qu'il y a peu de monde qui se plaignent que tu dois rester les bras croisés. Mais surtout que, on est quand même dans quelque chose d'assez problématique, où quelque chose que tu as acheté il y a longtemps, de manière rétrospective, peut être dépossédé. C'est complètement...
C'est un précédent, hein.
C'est ça, mais c'est ça, en fait. C'est le précédent qui arrive en ce moment. Et surtout, comme tu vois, parce que là, on parle de Valve qui est impliqué et d'Electronic Arts. Valve n'est que le support et la plateforme qui permet de la vente et distribution de ce jeu-là. Mais imagine que demain, je sais pas moi, Ubisoft décide de faire n'importe quoi, Activision aussi, et enfin, les éditeurs décident de pas se conformer à ce qui est souhaité par le consommateur. Bah, comment tu fais pour te retourner après? Du coup, si tu es obligé de passer par Valve, mais Valve, ils vont dire, ouais, mais c'est pas nous qui mettons le jeu en vente. Du coup, il faut que tu retournes chez l'éditeur qui a mis le truc en vente. Enfin, ça commence à devenir un bordel, quoi.
Alors, autre précision, parce que je vous ai dit, oui, il faut aller contacter le support d'Electronic Arts pour régler le problème. Mais la solution qu'ils proposent actuellement, c'est pas de faire marcher votre jeu sur Steam, hein. C'est de vous l'offrir sur Origin.
Ah oui, d'accord. Oh, de mieux en mieux.
On te propose même pas de vraie solution en plus, quoi. On te dit, on t'offre le jeu sur Origin et puis tu fais pas chier, quoi.
Bah, tant qu'on peut gratter, on peut récupérer des clients par-ci, par-là.
C'est ouf.
On va pas se priver, quoi.
et personne n'en parle. Moi, je trouve ça hallucinant. Hein. Personne n'en parle. Ça gueule dans des forums, mais personne n'en parle. Ça passe crème parce que c'est des vieux jeux et qu'après tout...
De mémoire, toi, t'as vu ça apparaître fin de semaine?
Ouais. J'ai vu ça apparaître il y a 3 jours à peu près.
Ouais, on est dimanche, donc vendredi, quoi. Ok. Ouais, bah espérons que ça commence à en parler dans des médias d'importance pour que ça gagne un petit peu en masse.
Ah bah, ça va être le souci, parce que si t'as des gens qui gueulent sur des forums, bon, et ils font une carte, ils peuvent s'en contenter, quoi. Mais si la presse commence à s'en mêler, là, peut-être qu'ils vont se réveiller. Bon, alors je précise, une presse qui fait pas ce que l'autre site a fait, là, en disant « Ah bah, Electronic Arts nous a dit que c'était bon, bah, ok, c'est bon, hein, bon voilà.
» Ouais, alors après, peut-être que le communiqué de presse, ils ont juste donné ce qu'Electronic Arts a dit. J'ai Activision, j'ai fait un lapsus, tu vois, genre, tellement je mets les deux au même niveau, quoi. Mais... ils ont donné leur genre, parce que déjà les mecs ils en ont parlé en fait, alors que aucun autre site, comme tu l'as dit, n'en a parlé. Déjà eux ils en ont parlé, après ils ont fait un communiqué selon Activision, selon que Electronic Arts a dit que c'était réglé. Ça se trouve ils vont revenir dans les semaines à venir, surtout que là c'est le week-end et tout, ils vont revenir dans la semaine à venir avec de nouvelles informations par rapport à ça, en fait. C'est-à-dire que là pour le moment c'est encore assez tôt, on verra si dans les semaines qui suivent est-ce qu'on aura d'autres informations qui vont venir justement en parler, et ou bien que le problème a été corrigé tout simplement, quoi.
Ouais. Bon, et ben écoute, on espère qu'une solution rapide et durable apparaîtra prochainement, mais pour ça il va falloir qu'Electronic Arts se bouge le cul, donc évidemment on vous tiendra au courant s'il y a des développements là-dessus. Très bien. Bon bah écoutez, c'était la fin de ce podcast pour cette semaine, l'épisode 367. On va se donner rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine, que ce soit sur vos applications habituelles de podcast, mais aussi sur Twitch, twitch.tv/radio_gameinfo, et puis évidemment sur le site gameinfo.fr pour vos commentaires. On remercie bien évidemment notre chat sur Twitch, et puis à tous les auditeurs qui nous écoutent religieusement chaque semaine. D'ici là, bah évidemment, portez-vous bien et surtout, jouez bien.
Des bisous.
Oh non, par pitié.
Ciao tout le monde.